Bonsoir. 15 militaires de la 11e région militaire des forces armées de la RDC ont été tués lors des affrontements violents avec les miliciens Mobondo. Les faits se sont déroulés dimanche 17 septembre au village Moulofi, dans le territoire de Kenge, province du Kwango. L'information a été livrée lundi 18 septembre par le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, Adelar Kissi. Ce dernier ajoute que du côté des miliciens, au moins 3 Mobondo sont tombés. Il s'agit d'un bilan provisoire, selon le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Tous les villages environnants, ajoute Adela Kissi, se sont vidés de leurs habitants. Pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a informé les membres du gouvernement que le phénomène Mobondo, jadis localisé dans les provinces de Kwango, Kwilu, Maindombe, Kinshasa, tend à s'exporter dans la province du Congo central. Il a dit lors du Conseil des ministres de vendredi 15 septembre 2023. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet activisme des Mobondo? Participe au débat de ce soir professeur Norbert Yambayamba, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Professeur Yambayamba, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Maître Soudi Kimputoli Massi, expert en décentralisation et en matière sécuritaire. Maître Soudi Kimputo, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Et Maître Jean-Claude Katende qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est président de l'Association africaine de droits de l'homme, AZADO, en sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio.okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi et sur la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans la province du Kwango. Au moins 15 militaires des forces armées de la RDC de la 11e région militaire ont été tués lors des affrontements violents avec les assaillants de la milice Mobondo. Les faits se sont déroulés dans la journée du dimanche 17 septembre 2023 au village Moulossi, situé entre Kiabouba et Batongo, dans le groupement de Makengo, secteur de Bukangalonzo, en territoire de Kenge. L'information a été rapportée à Radio Okapi par Maître Adelar Kissi, qui est porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, qui apporte aussi la précision selon laquelle, du côté des miliciens, au moins 3 Mobondo ont été aussi tués. Il précise qu'il s'agit d'un bilan provisoire, avant d'ajouter que pour l'instant, tous les villages environnants se sont vidés de leurs habitants, fuyant les atrocités de cette milice. On écoute Maître Adelar Kissi au téléphone de Iron Boma.
Nous apprenons qu'il y a eu des affrontements entre FARDC et les Mobondo dans le village Moulossi, dans le secteur Bukangalonzo. Effectivement, on nous informe qu'il y a 15 militaires qui sont tombés et 3 Mobondo de l'autre côté. Voilà, donc c'est un bilan qui n'est que provisoire. Les Mobondo, c'est un mouvement qui a commencé, que l'on maîtrise difficilement du fait que c'est comme une sorte de guérilla. Ils se reconstituent à un moment donné dans un ou un autre coin. Et donc, ils sont en présence, ça et là, pas très, très, très actifs comme au début. Et chaque fois qu'il y a un groupe qui se reconstitue quelque part, bon, l'armée est en train de faire son travail, malgré ce qui arrive, quoi. La population civile, c'est vide. Et donc, ce sont des effets collatéraux et qui nécessitent un regard particulier du pouvoir de Kinshasa aussi. Parce qu'il y en a qui sont venus de Kwamout, sont des déplacés. Maintenant, du coup, ils deviennent double déplacés, même triple déplacés. Donc, ils sont partis de là vers Machongo. Ils viennent à Bukangalonzo, ils sont encore obligés de fuir. Et donc la situation sécuritaire reste préoccupante.
Professeur Norbert Yambayamba, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, vous invite encore une fois de plus dans cette émission pour parler des Semobondo qui continuent à tuer, à créer la sécurité dans certains coins de la RDC. notamment dans le Grand Bandundu et même dans le Congo central, comme l'a alerté le vice-premier ministre, ministre de la Défense, lors du Conseil des ministres vendredi 15 septembre dernier. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à maîtriser cette milice? Toutes les fois qu'on nous a reçus dans cette émission, vous nous avez dit que le gouvernement travaillait travaillait sur ce dossier et que d'ici peu, la situation redeviendra normale, mais on constate qu'elle est en train de s'aggraver.
Merci. Je voudrais d'abord vous saluer, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez. Je salue également tous les co-délégataires à l'IMAS, ça fait un bail. Je salue également Jean-Claude Katende. Je voudrais simplement vous dire, madame, que lorsqu'on est dans un processus d'une guerre non conventionnelle, c'est pourquoi, c'est pas pour rien qu'on l'appelle non conventionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles de jeu, parce qu'on ne connaît pas qui, avec qui on fait la guerre, etc. Et donc, cette situation ne peut pas, en tout cas, faire l'objet de la détermination de dire qu'à telle date, ça va s'arrêter. Certainement qu'on s'engage, on met tous les dispositifs en marche pour que finalement on arrête cette tragédie. Est-ce que j'ai dit la dernière fois qu'on va arrêter, je ne sais pas, au moins d'août ou de septembre? Moi, j'ai dit non. J'ai dit simplement que les dispositions ont été prises dans la perspective de combattre jusqu'au bout les Mobondo, qui est une variété d'une guerre non conventionnelle, organisée, je ne sais pas par qui, certainement qu'on s'est référé, on est parti d'un conflit foncier entre les Yaka et les Teke. Et voilà, ce conflit foncier profite naturellement à des personnes invisibles, comme ça s'opère à Ituri, ça s'opère au Nord Kivu, ça s'opère dans plusieurs endroits, etc. On profite d'un cordon sensible entre les différentes communautés pour que finalement, ceux qui cherchent à aggraver la situation profitent de ce temps pour monter d'autres stratagèmes qui, aujourd'hui, devient presque une réalité dans notre pays. Mais je voudrais vous rassurer que le gouvernement, au travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, et le ministère, la vice-primature de la Défense, je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions sont prises. Vous avez vu, à un moment donné, on était localisé à Kouamoutou. Finalement, ça s'est délocalisé vers Kabaka, Kabaka. Et puis finalement, c'est Maluku, Kinshasa, bien entendu. Et puis, au Congo central. C'est que très clairement, s'il s'agissait d'un conflit entre les Teke et les Yaka, les choses s'arrêteraient. Les choses s'arrêteraient à Kouamout. Or, aujourd'hui...
Et donc, vous rejoignez ceux qui disent que ce phénomène Mobondo n'a rien à voir des conflits ou des violences communautaires entre Teke et Yaka.
Non, non, les conflits entre intercommunautaires est une réalité. Mais les profiteurs, les prédateurs profitent des conflits intercommunautaires ou des conflits sociologiques pour que finalement ils aggravent la situation déjà précaire. Et c'est comme ça qu'ils trouvent des relais, trouvent des répondants dans ces différents endroits pour que davantage on essaye d'aggraver la situation. Mais il faut comprendre qu'on a commencé avec ce qu'il y a eu comme conflit entre les deux communautés. Et puis bon, voilà, on est parti dans une situation de métastase où ça suit d'un endroit à un autre, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que l'on puisse désintoxiquer le débat, que l'on puisse véritablement dégonfler nos émotions, pour qu'ensemble, nous puissions chercher des voies et moyens de telle sorte qu'on puisse arrêter ce fléau qui a élu domicile au Nord Kivu, élu domicile, n'est-ce pas, à Ituri, aujourd'hui, à l'ouest de notre pays. Pourquoi pas aussi au Katanga à un certain moment, on a vécu également au Kasaï central à un certain moment, etc. Donc, ce sont des phénomènes qui montrent très clairement qu'il y a aujourd'hui des vautours qui ont besoin pratiquement de nous déstabiliser, nous fragiliser pour entrer en possession avec nos moyens, avec nos richesses, avec nos ressources naturelles, etc. Ne laissons pas libre cours simplement à une question essentiellement intercommunautaire, mais il y a des profiteurs. Et nous sommes conscients de cela. C'est comme ça que nous avons mis en place un package de trois pistes de solutions. La première piste de solution, c'est qu'il y a un problème qui surgit. Il y a presque une guerre et nous avons intérêt de mettre en branle nos militaires, nos policiers, nos services de sécurité, non seulement pour comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants, mais également pour chasser tous ceux qui sont en train véritablement de semer la terreur. Donc c'est une solution fondamentalement militaire. Il y a aussi une solution politique. La solution politique, ça veut dire en fait, on fait le rappel des troupes de tout le monde pour dire qu'est-ce qui est à la base de ça, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des communautés qui s'engagent avec des moyens conséquents pour continuer à semer la terreur, c'est que quelque part, ça c'est évident, les hommes politiques sont au-devant de la scène. C'est pas que je ne vous dirai pas qui est cet homme politique, parce que les enquêtes continuent. Il va falloir qu'on identifie ceux qui
sont depuis, à la c'est base. Depuis 2022 que ce phénomène a commencé, plus d'une année après. Le gouvernement ne sait toujours pas qui alimente ou qui entretient ces miliciens, qui arme ces miliciens, comment ils se procurent, comment se procurent-ils des armes, ces miliciens. Il y a beaucoup de questions qui sont floues, que la population se pose, professeur Norbert Yambayamba.
Le mode opératoire n'est pas très différent de ce qui se passe au Nord Kivu et à l'Ituri. Et vous savez que ces deux provinces ont bénéficié d'un état de siège. C'est très clair que l'intensité à l'Ouest n'est pas encore très prononcée. Mais c'est aussi vrai qu'on est en train de confirmer que c'est un autre phénomène qu'essentiellement, ça soit les conflits intercommunautaires. Et donc, dès qu'on aura fixé, on a fixé que ce conflit prend une autre forme à ce moment-là, on va aller un peu plus loin. Un peu plus loin pour dire qu'est-ce que nous faisons pour arrêter. Parce qu'à un moment donné, il y a eu accalmie. Et nous avons même pensé qu'on puisse justement procéder même à l'enrôlement dans les Kwamutu. Et c'était déjà c'est plausible. Mais ce qui est arrivé, c'est que au moment où on déplore la situation en Kwamutu, on attend qu'il y a des morts à Popokabaka. Quelques jours après, des morts dans le Congo central. C'est que c'est un phénomène qui inscrit l'hypothèse d'une guerre d'un conflit intercommunautaire. Et là, le gouvernement de la République, à travers ses différents services de sécurité, il travaille. Le grand problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a un problème qui surgit dans une situation non conventionnelle, les gens ont tendance à se demander essentiellement au gouvernement de terminer le même jour. Et lorsque le gouvernement ne termine pas le même jour, à ce moment-là, on dit non, c'est un gouvernement incompétent. Ah non! S'il vous plaît.
Donc, les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours. Le gouvernement ne sait pas avec qui l'armée est en train de se battre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure,
Vous avez suivi, madame, qu'il y a eu trois morts du côté des assaillants. C'est que le militaire, nos militaires, nos FARDC, nos veillants combattants ont réussi naturellement à neutraliser, à déstabiliser tous ces. Je ne les appellerai pas terroristes encore, il faut véritablement identifier leur nature, compagnie, etc. Mais au moins, nous connaissons qu'il y a des assaillants qui sont en train de semer la terreur. Il y a eu trois morts. C'est que quelque part, ils ne sont pas avec la forêt, ils ne sont pas seulement avec les arbres. Il y a des hommes et des femmes qui dorment qui sont en train véritablement de travailler, pour mettre fin à cela. Le grand problème, c'est qu'on
connaît, professeur, s'il vous plaît, Est-ce qu'on connaît l'identité de ces miliciens? Qui sont ces Mobondo?
Les Mobondo, c'est un nom de fétiche qui a été utilisé naturellement lors des conflits Tekeyaka. Et on parle que les Mobondo, c'est le nom de fétiche. Ah bon, voilà. Donc, ces gens-là sont considérés comme tels. Mais non, il y a des gens qui profitent de Mobondo, qui devient pratiquement une race de terroristes. Alors maintenant, ces gens-là profitent de ça pour aggraver la situation déjà précaire.
Alors, pendant ce temps, pendant que les Mobondo attaquent, il y a la population qui se déplace, des villages entiers qui se vident, la population abandonnée à elle-même. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens qui se déplacent, qui quittent, qui marchent des kilomètres et kilomètres pour chercher des endroits où ils peuvent être en sécurité?
Madame, je crois que je vous avais dit que nous avions trois pistes de solutions. Il y a la solution militaire, il y a la solution politique et la solution sociale, socio-humanitaire. Si nos militaires sont sur le terrain, nos services de sécurité sont en train d'y travailler, il est très clair que nous avons également des corridors humanitaires. Vous savez qu'à un moment donné, on a demandé à tous ceux qui sortent de ces différents villages de se retrouver à Bandundu, et il y a un endroit où le ministère des Affaires sociales y travaille, et l'humanitaire bien entendu, travaille dans le sens de pouvoir apporter un secours à tous nos... à toutes nos populations qui sont dans une situation très difficile.
Merci, professeur.
Les organismes, excusez madame, les organismes internationaux, en solidarité avec l'action gouvernementale, sont aussi en train d'intervenir. Certainement que, bon, en dehors de ça, nous sommes en train de préparer aujourd'hui, en tout cas, même aujourd'hui, j'ai une séance de travail avec une ONG qu'on appelle Leadership Coexist, et avec cette ONG, on est en train de préparer ce qu'on appelle la retraite, et qui va finalement déboucher vers un forum intercommunautaire pour construire la paix. La retraite aurait pu avoir lieu déjà le mois passé dans la Bandundu, mais une partie n'a pas souhaité.
Alors, on a un souci avec votre ligne téléphonique. La réalisation va essayer de régler ce problème. Et en attendant, on va prendre Maître Soudi Kimputu Alimasike, expert en décentralisation et en matière sécuritaire. Maître Soudi Kimputu, depuis 2022, qu'on parle du phénomène Mobondo, ça a commencé dans le Grand Bandundu. Aujourd'hui, ces miliciens, cette milice ou bien ce phénomène s'exporte dans le Congo central. Comment vous analysez, quelle lecture vous avez de ce phénomène Mobondo et comment c'est géré par le gouvernement?
Merci beaucoup, Kelly. Je vous salue. Je salue le professeur Norbert Yambayamba-Choukou. Je salue M. Jean-Claude Katende. Et 15 militaires tués contre 3 miliciens Mobondo. Et en termes opérationnels, c'est trop. Ça signifie qu'il y a un problème soit des rapports de force, soit des tactiques sur le terrain. Ça veut dire que nous avons déjà un grand problème à l'ouest de notre pays, qui tend à une sorte d'importation de la question qui a compliqué la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. La question de la milice Mobondo aujourd'hui, elle est la conséquence de l'impunité des principaux instigateurs de cette question. Malheureusement, nous sommes dans une émission et on ne peut pas citer le nom des gens ici, mais les auditeurs et les acteurs au sein des institutions savent de quoi nous parlons. Cette question a commencé par les conflits des politiciens. Ces conflits des politiciens se sont transformés en instrumentalisation des chefs coutumiers à travers ce que le professeur a appelé tout à l'heure les conflits fonciers, c'est de l'instrumentalisation des chefs des terres. Il y en a qui peuvent se souvenir qu'il y a eu des affrontements dans un territoire de la province de Maïndombe. C'est la source de cette question. Et après cela, ça s'est transformé en conflit communautaire. Aujourd'hui, qu'on a attribué aux deux communautés, Tek et Yaka. Ces conflits ont perduré. Et le fait de perdurer, ça a créé les phénomènes des illuminés qui aujourd'hui, par effet d'entraînement, on est en train d'assister à l'accroissement du nombre de ces miliciens qui s'évertuent aujourd'hui à se proclamer des revendicateurs des terres. Nous avons connu à un moment donné ces phénomènes, les Aignelés et consorts dans l'ancienne configuration de l'Équateur. Et le fait maintenant que cette milice puisse s'accroître de plus en plus, ça a créé le besoin pour la survie de cette milice. Conséquence, la prise des entités, l'exploitation forestière, les barrières, on assiste à des coupeurs de route, etc., etc. C'est grave encore, qui a aujourd'hui commencé à embraser presque l'Ouest et mettre la République en étau. Lorsque ces conflits ont commencé, ces miliciens utilisaient les machettes et les flèches. Après un temps, comme aujourd'hui nous avons assisté à un danger de l'implication des opportunistes politiques, ces miliciens ont quitté les flèches et les machettes, ont d'abord commencé par prendre la première catégorie des armes à feu, qui sont des armes de chasse. Et à l'heure qu'il est, vous avez suivi nos vaillants militants, des combattants des FARDC. 15 sont tombés dans les villages Molossi. Mais c'est avec des armes de guerre.
Mais la question, mais qui arme finalement ces miliciens? Qui les arme? Est-ce que c'est tous ces hommes, c'est pas les hommes politiques, entre guillemets, les tireurs des ficelles qui arment ces gens?
Madame, je l'ai dit clairement, les phénomènes de Mobondo, c'est pratiquement la copier-coller de la situation de l'Est. Et j'ai commencé par dire que c'est l'impunité des principaux instigateurs. Lorsque l'affaire commence, les principaux instigateurs, mon service de renseignement, le savent bien. Bien, lorsque la politique passe là-dessus, c'est fini.
Donc les instigateurs sont connus.
Où est-ce que ces gens-là vont trouver les armes de guerre et des munitions de guerre pour attaquer notre armée? Si ce n'est pas qu'ils ont des hommes politiques qui sont dans les institutions, qui leur dotent de ces instruments de guerre. Et malheureusement, j'ai même très bien suivi le professeur, les trois solutions qu'on essaie de prendre, ce sont des méthodes qui ont totalement échoué à l'Est. Vous pouvez vous imaginer, j'ai vu il y a peu, il y a eu des campagnes de sensibilisation. On a tenté de faire l'organisation des conférences des paix, jusqu'à arriver à l'insertion. Et ça me rappelle le phénomène macabre, des tristes mémoires, des mixages et des brassages. On a vu certains jeunes de ces communautés, parce qu'ils ont combattu dans ces communautés, on les a pris pour les amener dans les centres de formation, pour les intégrer dans l'armée. Chose grave, parce que ces méthodes ont échoué. La conséquence est que aujourd'hui, on parle des armes de guerre. Qui sait peut-être que ce sont ces jeunes qui ont été formés, intégrés dans l'armée, qui s'évertent dans l'armée et qui partent rejoindre leur groupe de miliciens avec ces armes de l'État et commencer à causer du tort à notre armée. Et voilà, c'est un contour qui est malheureusement dramatique et qui tend à copier sérieusement et de manière vraiment identique la situation qui nous a créé la nébuleuse de l'Est de notre pays. Mmh. Et je peux ajouter cela, à cela, l'absence de l'État. Parce que lorsque vous suivez la prise des villages, il y a des villages tout entiers où, lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de policiers. Ils ont tout le temps d'égorger les gens, de tuer les gens. Et aujourd'hui, heureusement, les gens commencent à être un peu souples et fuir avant dès qu'ils voient les mouvements. Mais avant, c'était des corps et des corps qu'ils assassinaient à l'époque avec des machettes et des flèches. Et aujourd'hui, ils ont des armes quand ils rentrent. Ils tuent sans pitié. Et par effet d'entraînement, vous avez suivi, c'est ce qui devient très très dangereux. Le phénomène a commencé à Maïndombe, il est passé par Kwilu, il a traversé le Congo. Aujourd'hui, on parle du Congo central et de Kinshasa. C'est une menace sérieuse, alors que la partie ouest, c'était la partie où régnait la paix, et que les gens parlaient plus de la situation de l'Est. Et à un moment donné, lorsqu'en termes opérationnels, nous commençons à faire des hommes de troupes, de l'armée régulière, ça veut dire que il y a un problème des rapports de force et que l'État, si ça ne dépendait que de moi, après avoir tiré les leçons de l'Est, les services de renseignement, les services de maintien les services de sécurité et des rétablissements d'ordre, je vais prendre d'autres précautions. Malheureusement, dans ces domaines, on ne peut pas aller avec beaucoup de détails ici. Et c'est très malheureux, madame.
En regardant encore dans cette émission, Maître Soudi Kimputu Animasti, la réalisation nous signale que Maître Jean-Claude Katende est avec nous. Maître Katende, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes président de l'Association africaine de droits de l'homme, AZADO, en sigle, et également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Comment vous analysez cette situation de Mubondo qui pousse des milliers de personnes aujourd'hui à quitter leur village pour aller s'abriter, trouver des endroits un peu plus sécurs?
Merci, madame, pour la parole. Je voudrais saluer les professeurs Norbert et M. Kimputu pour leurs interventions pertinentes dans ce débat. La première chose que je voudrais souligner est que le phénomène Mubondo n'est pas un phénomène spontané. Ça veut dire en d'autres termes que les gens ont eu le temps de se concerter, de se préparer, de s'organiser pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. L'ampleur, l'organisation démontre que le Mubondo n'est pas un phénomène spontané. Étant donné que ce n'est pas un phénomène spontané, il y a des causes. Et mes prédécesseurs, en termes d'intervention, ont mentionné plusieurs autres causes, mais je voudrais dire qu'il y a des causes lointaines. Parmi les causes lointaines, il y a la manière dont on avait géré les conflits à Yumbi. Vous savez que à ces jours, les quelques procès qui ont eu lieu, on a identifié quelques exécutants qui ont été arrêtés, mais vous avez à Kinshasa là-bas des personnes qui ont joué un rôle crucial dans les conflits de Yumbi qui sont en liberté. Ça veut dire en d'autres termes que l'impunité des donneurs d'ordre est une des causes lointaines de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il y a aussi des causes qui sont proches. Et parmi les causes qui sont proches, il y a lieu de noter que les Teke et les Umbo ont toujours vécu ensemble depuis des années. Depuis des années. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, d'un coup, un conflit éclate entre les deux communautés? C'est qu'il y a un problème qui est arrivé, et pour moi, ce problème, c'est d'abord la manipulation des hommes politiques dont certains sont à Kinshasa, là-bas, que ce soit dans les conflits Umbuteke, que ce soit dans les conflits à l'est du pays, il y a des politiciens qui sont des manipulateurs. Connaissant la pauvreté qu'il y a dans le Bandundu, que j'ai déjà visité à plusieurs reprises, je vois très mal comment ces jeunes gens pourraient avoir de l'argent pour se procurer les armes. Comment ils peuvent s'organiser? Donc il y a un problème sérieux qu'on n'a jamais attaqué, c'est la manipulation des hommes politiques. Et les gens à Kinshasa se protègent en fonction de leurs intérêts politiques. On ne veut pas toucher à X et à Y. C'est encore l'impunité. Donc, deuxièmement, en ce qui concerne les causes proches, c'est la faiblesse de nos services de renseignement, que ce soit les services de renseignement civils ou militaires. Si ces jeunes se sont constitués en miliciens, il y a eu des réunions. Pourquoi l'ANR n'était pas au courant? Soit il y a la faiblesse de nos services, soit il y a la complicité de toutes ces agences de renseignement qui sont plus fortes quand il s'agit de traquer les opposants et les activistes de la société civile. Mais quand il y a des problèmes sérieux comme celui-là, ils sont surpris. Et donc, il faut travailler sur ces causes-là. C'est vrai que le professeur a dit que le gouvernement est en train de contrôler la situation. J'estime que le gouvernement ne contrôle pas la situation. Ils ont envoyé beaucoup de troupes dans les Bandundu, mais on ne voit pas les résultats. Les résultats pour nous, c'est de rétablir la sécurité. Mais quand le phénomène s'exporte de Kwamout dans les autres provinces du pays, ça veut dire qu'il faut absolument voir comment l'armée s'organise. Troisième chose que je voudrais souligner, je vais m'arrêter là, c'est le fait que aujourd'hui, les organisations humanitaires n'ont pas accès à toutes ces personnes.
Allô?
Oui, je disais que la troisième chose et la dernière que je voudrais souligner, c'est le fait que les organisations humanitaires n'ont pas accès à ces endroits où il y a les déplacements des populations. Uh-huh. L'armée empêche toute assistance humanitaire à se déplacer. J'ai eu une réunion aujourd'hui avec les organisations internationales concernant la situation dans le Bandundu. Elles disent que c'est difficile d'organiser l'assistance de ces personnes dans les lieux où ils sont en déplacement parce que l'armée n'ouvre pas des corridors qui puissent permettre à ces ONG de venir en aide aux déplacés.
Alors, on a le professeur Yamba dans notre émission qui va nous dire pourquoi on n'arrive pas, l'armée n'ouvre pas des corridors pour permettre aux humanitaires d'assister ces personnes. Mais avant de redonner la parole au prof, on va lire quelques réactions des internautes qui sont très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi, des auditeurs qui nous écrivent de partout. C'est le cas de Mavé Chisambika. Voilà, il est incompréhensible de constater que le gouvernement devient de plus en plus inefficace et fragile face à ce genre de phénomènes qui prennent de l'ampleur dans certaines contrées du pays qui, en dehors du M23, inquiète la paix des Congolais au grand mot des grands remèdes, dit-on. Le gouvernement doit en tout cas mettre du sérieux dans ces situations. Soit les autorités sont complices, soit elles ne sont pas à leur place. il nous écrit depuis Lubumbashi, beaucoup d'autres aussi qui nous écrivent depuis le Tanganyika, par exemple, David Kassassé, voilà, ils sont très nombreux depuis Kinshasa aussi, Rugonda Lemba Lemba, qui se pose la question où est-ce que nous sommes finalement avec des milices un peu partout dans le pays, voilà, ils sont très 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 nombreux les internautes. On va en profiter aussi pour ouvrir le standard en même temps. Écoutez ces auditeurs qui nous ont écrit, qui nous ont appelés. On va se rendre dans quelle province, dans le Bandundu justement, pour écouter cet auditeur qui appelle, qui s'appelle Timothée.
Oui, c'est Timothée Boké, depuis Bandunduville. Moi, je pense à mon aide à dire que cela est dit à la place de l'autorité de l'État et la volonté manifeste du gouvernement qui ne peut pas cristalliser le conflit dans tous les coins du pays. Comme vous le savez, de l'est à l'ouest, de nord au sud, les groupes armés sont en train de sillonner librement, sont en train d'opérer dans la quiétude sans être blâmés. En effet, vous savez, depuis que cette situation de Mondondo a généré en 2022, nous, la jeunesse de Maïndombe, avons décidé de pouvoir faire une marche pour interpeller les autorités afin qu'ils puissent faire quelque chose pour stopper cet activisme. Mais malheureusement, nous avons été dictés par une difficulté manifeste du pouvoir en place où la vice-primature n'avait pas voulu recevoir les jeunes de Maïndombe, y compris même nos notables. Le massacre de civils, tant qu'on ne fait pas un effort pour punir ou pour crier tout ce qui sont en train de bander la population congolaise, les groupes armés vont continuer à apparaître.
Professeur Yamba Yamba, réaction.
Merci madame. Merci pour toutes ces réactions. Je pense que lorsqu'on a les vies de l'État, lorsqu'on a la responsabilité de l'action publique, il faut avoir moins d'émotions. Il faut être plus rationnel et se mettre au service de tous les compatriotes qui ont insuffisamment les moyens d'information et si envie de les rassurer que le gouvernement n'est pas resté, n'est-ce pas, insensible. Il faudrait, dans un premier temps, rassurer tout le monde que ce qui est reconnu comme absence de l'État, non, il n'y a pas absence de l'État. Notre pays a 26 provinces, notre pays a 1448 entités territoriales décentralisées, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs ou chefferies. Aujourd'hui, lorsque on évalue les endroits qui sont touchés, c'est très clair. Il y a le Kwamutu, effectivement, la partie ouest, qui reprend Kinshasa, une partie, le Bandundu, une partie, et Ituri, et puis le Nord Kivu. Donc, sur les 26 provinces, vous avez au moins 3 provinces touchées. Quelque part, l'État, la République, a su maintenir l'ordre, la sécurité, dans les 23 provinces. C'est très important en termes de quantification et de comptabilité. À cause que lorsque vous entrez province par province, vous avez des endroits où beaucoup de territoires sont épargnés. Il y a certains territoires, certes stratégiques, qui sont touchés. Vous avez au nord Kivu, vous avez Mafisi, vous avez Rutshuru. Mutatis, lorsque vous êtes à l'Ituri, c'est pas tous les territoires qui sont touchés. Et quand vous êtes en l'ouest, vous avez Kwamutu à Kinshasa, vous avez Popokabaka, n'est-ce pas, dans les Kwango, et vous avez ce qui est arrivé dans les Congo central. Donc, en termes de quantification, en termes de statistiques, nous pouvons tirer une conclusion pour dire que l'État n'est pas absent. Parce qu'il y a des parties qui sont sur-regardées. Sinon, ils auraient pu prendre pratiquement toute la République. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais aussi rassurer à tout le monde que ce qu'on est en train d'observer, cette métastase qui se ramifie à longueur de journée, est une convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts entre ceux qui sont dans leur communauté, bien entendu, qui ont eu des petits soucis avec, avec la gestion foncière, hein, la gestion des espaces, certainement qu'il y a eu un problème entre les Teke et les Yaka autour de la gestion foncière. Certainement que ce conflit ne peut pas engendrer ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui.
Alors, professeur, s'il vous plaît, professeur, vous avez suivi les interventions de Maître Katende et de Maître Soudi. Tous disent que c'est à cause de l'impunité de certains instigateurs que ce phénomène est en train de se répandre. Les tireurs de ficelles, ils sont connus, ils sont à Kinshasa, mais il n'y a rien qui est fait pour les traquer, pour pour les traduire en justice.
Je pense que la justice et Maître Katende le sait bien. Pour être juste, elle doit mener des enquêtes, elle doit établir des responsabilités. Et ce processus ne se fait pas de manière automatique, moins encore mécanique. Et donc, ces enquêtes se font, et je pense qu'au-delà de ceux qui sont réputés être Mombolo, le moment viendra où les responsabilités seront établies. Je voudrais dire également que cette convergence d'intérêts ramifie jusqu'aux gens qui ont monté des stratagèmes pour déstabiliser notre pays. N'oubliez pas cet aspect des choses. C'est pourquoi il y a récurrence de la violence en Ituri, récurrence de la violence au Nord Kivu, récurrence de la violence ici à l'ouest de notre pays. Donc, quelque part, il y a une stratégie, j'allais dire, mentale, qui est montée pour déstabiliser notre pays. Au-delà de tout, déstabiliser les dirigeants de la République et tous ceux qui connaissent la géopolitique internationale savent que lorsqu'on s'engage à défendre les intérêts de la République, il est très clair que ceux qui sont reconnus comme des vautours à travers le monde, qui ont besoin véritablement de nos ressources naturelles, recrutent des hommes et des femmes, on peut les retrouver à l'intérieur, on peut les retrouver dans la sous-région, justement pour déstabiliser notre pays.
Est-ce que vous voulez dire par là, professeur, que ces Mobondo seraient appuyés par des personnes qui ne seraient pas congolaises ou des étrangers?
Le phénomène Mobondo, c'est un phénomène récent, bien entendu, mais qui prend les modes opératoires de ce qu'on est en train de vivre à l'Ituri et au Nord Kivu. Or, au Nord Kivu comme à l'Ituri, on a connu, des forces internes, mais soutenues par les collègues, les amis de la sous-région, soutenues par les vautours internationaux. C'est très important, il ne faut pas
écrire cela. Merci, professeur. S'il vous plaît, on va...
J'aimerais quand même terminer pour dire que il ne faut pas dire que, bon, le gouvernement est inefficace, il y a complicité des autorités, ben, il faut arrêter, ça paraît un peu de connerie, quoi. Le gouvernement est en train de se battre devant un phénomène non conventionnel, devant un phénomène content, on n'a pas la maîtrise.
Hier,
le calme total à Kwamutu. Maintenant, ça...
Merci, professeur. Merci, on va vous redonner la parole pour conclure, ne vous inquiétez pas. On va aller dans la province de la Tshopo, je pense, hein, pour écouter John Odiane. Il est plutôt à Isiro, voilà, John Odiane.
C'est John Odiane à Isiro, dans la province de où il est. Vraiment, la place de l'insécurité créée par les militaires Mobondo dans la province de Kwango, Kwilu, Baïndombe, y compris Kinshasa, commence à nous inquiéter. Si la population et nos militaires continuent à perdre leur vie, cela prouve la faillite ou la faiblesse du gouvernement congolais dans la gestion du conflit communautaire et la légèreté dans les traitements de ce conflit. À mon avis, si les militaires Mobondo continuent à faire la loi jusqu'aujourd'hui, les complices sont à l'extérieur. Ah, il faut se poser les questions. Qui ravitaille les militaires en armes? Est-ce que l'espèce d'attaque est asymétrique et pour ne pas les neutraliser, l'État congolais doit prendre totalement ses responsabilités à sécuriser la population et leurs biens?
Cet auditeur, Maître Soudi, revient un peu, hein, vous rejoint dans votre, analyse de tout à l'heure, quoi. L'État doit prendre ses responsabilités.
Absolument, absolument, parce que j'ai une très grande inquiétude du fait que la partie occidentale de notre pays vient de connaître les conflits qui étaient, entre guillemets, communautaires, qui se transforment en conflits armés, qui a usage d'armes à feu, d'armes de guerre, déjà. Et le fait que ça puisse traverser plus d'une province, ça devient de plus en plus inquiétant. Tenez, aujourd'hui, on parle de Kwilu, Kwango, Maïndombe, qui constitue l'ancienne province de Bandundu, mais entre-temps, ça a touché aujourd'hui la province du Congo central et la ville de Kinshasa, dans ses périphéries. N'oubliez pas qu'au-delà de ce qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, il y a aussi de ces genres de groupes qui émergent au niveau de la province du Kivu, dont les maniements en territoire de Kabambare autour d'aujourd'hui, il y a des endroits inaccessibles. Il y a des illuminés, pareil, qui opèrent. Lorsque vous prenez la partie nord, il y a d'abord l'éternel problème du phénomène Mbororo, qui aujourd'hui assassine, parce qu'ils sont porteurs des armes à feu, ils s'installent où ils veulent en usant des armes. Et eux, ils ont une connexion internationale. Lorsque vous prenez la partie sud des phénomènes Bakata Katanga, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas éradiqué et il est opérationnel. Vous prenez le centre, j'ai parlé un peu du Maniema, mais il y a aussi un conflit très latent entre les communautés qui étaient là de la savane et de la forêt dans les Sankours. Vous descendez un peu vers le Tanganyika. Les conflits pygmées et bantous est en train d'émerger, bien qu'il y a des petits accalmies, mais il y a encore des petits foyers de tension. Et vous savez que nous avons déjà dans notre territoire les phénomènes du terrorisme international, au point que ces malfrats ont déclaré notre pays des foyers de l'État islamique en Afrique centrale. Et si ces phénomènes Mobondo, avec les modes opérationnels actuels perdus, et qu'il y avait, c'est le plus grand risque, j'en profite d'ailleurs pour alerter et même l'ensemble de nos services pour multiplier les vigilances, parce que si, avec ces modes opératoires, il y a un lien avec ce qui se fait à l'Est, c'est fini. Ça sera le chaos total de notre pays et nous y ferons longtemps, longtemps, longtemps pour trouver des voies de sortie.
Merci, Maître Soudi. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Lubumbashi pour vous mettre Katende.
Patrick Azadi, depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je commence par condamner la mort de nos vaillants soldats sur le champ de bataille et condamne cet acte ignoble. Si l'activisme des groupes armés à l'est du pays a des soubassements pécuniers, avec à la clé l'exploitation abusive des ressources naturelles, qu'est-ce qui peut bien expliquer l'activisme de ces mouvements rebelles dans la partie ouest de notre pays, proche de la capitale? Je vois en cela des motivations politiques, avec en ligne de mire les boycotts du processus électoral. Je vais soutenir mon argumentaire avec le récent propos appelant au dialogue, à la révision du fichier électoral et beaucoup d'autres discours sapant le processus électoral qui est en cours. J'en appelle à la solidarité nationale. Je demande au gouvernement de pouvoir assumer sa mission régalienne en protégeant la population, l'intégrité territoriale et que ses auteurs de ces actes ignobles soient traduits en justice et que les dommages soient réparés.
Maître Jean-Claude Katende, que pensez-vous de ce point de vue, du point de vue de Patrick Kazadi? Maître Katende, je pense qu'on a perdu Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Maître Jean-Claude Katende?
Avant de répondre à notre auditeur, je vais dire quand même que je suis inquiet par rapport aux réponses que le professeur Norbert Yambayamba a données. Il se satisfait du fait que, statistiquement, l'État est en train de contrôler d'autres parties du pays. Mais comme l'a démontré le confrère Kimputu, le pays est encerclé par les groupes armés. Et cette satisfaction du professeur nous inquiète dans la mesure où, même dans les endroits où il y a ces troubles, il y a des Congolais qui meurent. Il devrait en être très préoccupé quand même. Deuxièmement, le prof dit qu'il y aura un moment où on va établir les responsabilités. Plus d'une année après, vous estimez que le moment n'est pas encore venu pour établir les responsabilités des personnes qui sont impliquées dans ces phénomènes. Je suis totalement inquiet, moi, à voir que les Teke, les Yaka sont en train de s'entretuer et l'État ne s'empresse pas à établir les responsabilités. En ce qui concerne les observations faites par notre auditeur, je constate comme lui que ces genres de conflits se manifestent dans la plupart de cas dans les années qui sont proches des élections. Et la cause, comme je l'avais déjà souligné, c'est beaucoup plus la manipulation des hommes politiques au sujet desquels le prof nous dit que le moment n'est pas encore venu d'établir des responsabilités. Et tant qu'on ne le fait pas aujourd'hui, ce phénomène risque de s'étendre. Et je pense que le fait que la capitale elle-même, qui doit être bien protégée, est menacée, cela signifie que ces gens sont bien organisés et l'État doit pouvoir réfléchir pour, n'est-ce pas, protéger le pays et surtout récupérer les quelques coins du pays qui sont pris déjà par les Mobondo.
Alors, à court
je crois
terme,
que cela est très important.
À court terme, Maître Jean-Claude Katende, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour stopper ce phénomène? Ça sera votre conclusion.
Ce que je propose pour stopper ce phénomène, il faut qu'on puisse, grâce à la justice et aux services de sécurité, identifier les personnes qui sont derrière les Mobondo. Et certaines sont à Kinshasa, et on le sait bien. Maintenant, le professeur a parlé des forces internationales qui seraient derrière. Mais pourquoi il ne les cite pas? Pourquoi l'État congolais ne se plaint pas en citant ces forces internationales? Pour moi, je pense que le point de départ, c'est celui-là. Toutes les réunions qu'on peut faire entre les Teke et les Yaka ne produiront rien tant que les manipulateurs de ces populations vont continuer à vivre dans la liberté.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Maître Soudi Kimputu, toutes les réunions entre Teke et Yaka ne produiront rien tant que les manipulateurs voilà, ne seront pas arrêtés. Ça, c'est la conclusion de Maître Katende. Vous êtes d'accord avec lui?
Je crois que je l'ai dit. Je l'ai dit même à l'introduction. Et lorsque je parlais des solutions qui sont envisagées aujourd'hui, ce sont des méthodes qui n'ont pas réussi à l'aide de la RDC. Vous savez que les instigateurs des questions de l'aide sont dans les institutions et lorsqu'ils sont associés sur les solutions à amener à l'aide, ils brillent les pistes. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse rééditer les mêmes exploits qui ont lamentablement échoué à l'Est. Aujourd'hui, il faut carrément identifier les instigateurs qui sont connus parce que nous avons des services de renseignement, nous avons des services de sécurité qui savent, la population de l'Est, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Deuxièmement, l'État doit s'assumer en rétablissant son autorité, la présence policière, la présence militaire dans toutes ces entités, parce que c'est le moment qu'il faut arrêter ce phénomène. Parce que si on ne le fait pas maintenant, ça sera trop tard, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans la partie ouest, on ne peut plus parler de l'ancien Bandundu parce que ça a déjà traversé toutes les trois provinces de l'ancien Bandundu. Nous sommes au Congo central et à Kinshasa aujourd'hui. Qui sait demain que ça pourra arriver dans le Kasaï? Et là, il y a les vestiges, par exemple, de l'autre phénomène qu'on devait...
Kamuina-Sapu,
qu'on venait de connaître. Il y a encore des vestiges là-bas.
Et merci.
Il suffit que ça arrive et malheureusement, nous risquons de nous retrouver dans une situation incontrôlable.
Merci, Maître Soudi Kimputu. Professeur Norbert Yambayamba, vous avez 30 secondes pour conclure.
Je voudrais seulement rassurer mon ami Jean-Claude Katené que je ne suis pas en train d'être satisfait, mais je voudrais juste dire que la thèse de l'absence de l'État, c'est une thèse très radicale. Et dans cette analyse, j'ai démontré la partie occupée, la partie non occupée. Et donc, si il y a une partie qui est encore non occupée, c'est qu'on peut faire un effort pour récupérer la partie déjà occupée. Ça, ce n'est pas une satisfaction, mais c'est une comptabilité qui est fondamentalement rationnelle. Je voudrais également dire au maître Katené que je n'attends pas dire qu'on n'a pas établi les responsabilités. Maître Katené est activiste des droits de l'homme. Je crois qu'il a fait des investigations, il a fait des enquêtes, il a identifié les acteurs qu'il considère comme des manipulateurs. Nous sommes disposés à l'écouter, qui nous donne ces sources-là, ça serait véritablement des soulagements qui nous permettront de consolider notre commission et de prendre des mesures correspondantes. Je voudrais également dire à ce qui a été tout à l'heure dit que non, les réunions sont inutiles et que bon, il faut arrêter. Non, mon cher ami. Le conflit a commencé par le fait qu'il y a ça, certainement qu'il y a eu un petit problème. Les profiteurs sont tombés sur l'occasion et ils ont aggravé la situation déjà précaire.
Et donc les discussions vont se poursuivre.
Il faut donc continuer avec le réunion et au fil du temps, les gens vont comprendre parce que ceux qui sont recrutés pour faire et pour aggraver cette situation sont des locaux. Et maintenant, s'ils comprennent le bien fondé de la situation, donc ils vont arrêter la dynamique et ça va dégonfler la tension.
Merci, professeur.
Je voudrais rassurer que les forces internationales sont là. Et on l'a vu, on l'a vu un peu presque partout.
On a perdu le prof Yambayamba, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Jonathan Fanani, Clément Chimanga, Dieudonné Nyangassa, Jean-Claude Tiala, Donna Madimba qui m'ont accompagné dans la préparation de ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.